Aujourd'hui, notre exploration en profondeur se penche sur un document assez fascinant. C'est un bulletin d'information qui a été publié ce 26 avril 2026 par Radio Tam Tam Afrita.
Oui, un document vraiment dense, très riche.
Absolument. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre une sorte de révolution silencieuse, en fait, qui est en train de redessiner complètement l'échiquier technologique mondial. On va analyser comment le continent africain est en train d'opérer un basculement massif.
C'est ça, le passage du statut de simple consommateur de technologie à celui de vrai producteur de sa propre intelligence artificielle.
Bon, décortiquons un peu tout ça. Pour bien saisir l'ampleur du truc, imaginons une grande métropole. Une ville tentaculaire, hyperactive, qui fonctionne entièrement à l'électricité.
D'accord, je vois le tableau.
Les lumières brillent, les hôpitaux tournent, l'économie bouillonne. Mais, et c'est là le détail troublant, cette ville ne possède aucune centrale électrique. Pas une seule.
Ah oui, c'est un vrai problème structurel.
Exactement. Chaque jour, d'immenses navires arrivent au port, chargés de gigantesques batteries fabriquées à l'autre bout du monde, quoi. Alors oui, la ville fonctionne, mais celui qui contrôle les navires contrôle la ville.
C'est une excellente allégorie, franchement, pour comprendre la dynamique technologique des 10 dernières années. Parce que si les navires s'arrêtent ou si le prix des batteries explose du jour au lendemain...
La ville entière est plongée dans le noir.
Voilà, tout simplement. Pendant longtemps, l'enjeu en Afrique s'était vraiment centré sur l'adoption. C'est-à-dire comment distribuer ces fameuses batteries, comment connecter les populations aux applications qui étaient développées en Occident ou en Asie.
Ouais, on était dans la pure consommation.
Exactement. Mais le bulletin que nous analysons aujourd'hui démontre que ce paradigme, il est mort. La seule véritable solution pour cette métropole numérique, c'est de commencer à construire ses propres réacteurs.
Et c'est exactement ce qui se passe physiquement sur le terrain en ce moment. Le rapport mentionne l'émergence de ce qu'ils appellent des usines AIA, en citant des acteurs sud-africains pionniers, comme Altron et Cassava Technologies, par exemple.
Oui, de vrais poids lourds de l'infrastructure.
On ne parle plus du tout de petits développeurs qui codent une API de livraison dans un café, là. On parle d'infrastructures lourdes, de béton, de câbles. Mais honnêtement, j'ai besoin de jouer l'avocat du diable une petite seconde.
Allez-y.
Une usine AIA. Concrètement, ce sont des centres de données gargantuesques, non? Ça nécessite une énergie colossale juste pour refroidir des milliers de processeurs, sachant que l'Afrique du Sud traverse régulièrement des crises énergétiques avec des délestages massifs. Est-ce que ce concept tient vraiment la route face à la réalité physique du réseau électrique?
Alors, si l'on relie cela à la vue d'ensemble, la contrainte énergétique est indéniable, c'est vrai. Mais c'est précisément ce qui force l'innovation infrastructurelle locale.
Ah, d'accord, donc c'est un mal pour un bien.
D'une certaine manière, oui. Ces entreprises ne se contentent pas de bêtement brancher des serveurs sur un réseau public défaillant. Elles investissent massivement. On parle de micro-réseaux solaires, de solutions de refroidissement passif qui sont ultra adaptées au climat et d'architectures de serveurs beaucoup plus efficients.
Et donc, ça devient viable.
Absolument. Mais pour répondre à la question de savoir si ça tient la route sur le long terme, il faut comprendre pourquoi ils n'ont tout simplement pas le choix. Dans la nouvelle économie de l'IA, la donnée brute locale, c'est la matière première, c'est le nouveau pétrole.
Ouais, l'or noir du 21e siècle.
C'est ça, si une région laisse ses données être aspirées par des serveurs qui sont situés, disons, en Californie ou à Shenzhen, traités par des algorithmes étrangers, puis lui être revendus sous forme d'abonnement mensuel, c'est une hémorragie économique totale.
C'est le vieux modèle de l'extraction minière, mais appliqué au numérique, quoi.
Exactement. Donc, construire ces usines, même si au départ c'est un cauchemar logistique, c'est la seule façon de conserver la valeur ajoutée sur le territoire.
Autrement dit, si on ne contrôle pas le matériel qui fait tourner la machine, on se condamne à être éternellement le locateur de son propre futur numérique.
C'est très bien résumé.
Et c'est un enjeu qui dépasse largement le cadre régional, finalement. Parce que si l'Afrique parvient à briser ce monopole de l'infrastructure, ça prouve au reste du monde, à l'Europe, à l'Amérique du Sud, qu'une alternative aux immenses monopoles de la Silicon Valley, c'est possible.
Oui, c'est une vraie redéfinition des chaînes d'approvisionnement mondiales de la donnée.
Mais avoir les murs, les serveurs et l'électricité, ça ne suffit pas, on est d'accord. Une usine vide ne produit rien. Il faut des cerveaux pour écrire ces fameux algorithmes.
Absolument. L'infrastructure n'est que la première étape.
Et le bulletin met justement en lumière un chiffre qui m'a franchement stupéfait. Google vient de sélectionner 15 startups africaines pour un énorme programme d'accélération en IA sur un total de plus de 2600 candidatures.
Ces volumes, ces 2600 dossiers, c'est un indicateur de vitalité indéniable pour la région.
C'est gigantesque!
Oui, et il est important de noter d'où viennent ces équipes. On a le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, le Sénégal, l'Ouganda. On observe vraiment la maturation d'un écosystème panafricain. Ces startups cherchent à utiliser des technologies de pointe pour résoudre des défis hyper locaux.
Des défis que des ingénieurs californiens ne verraient même pas, en fait.
Voilà qu'ils ne peuvent tout simplement pas appréhender, depuis leur bureau à des milliers de kilomètres.
D'accord, mais attendez. Il y a un énorme paradoxe ici, non ?
Lequel ?
On vient juste d'établir dans la section précédente que le but suprême de ces usines locales, c'était la souveraineté. Éviter la dépendance, ne plus être locateur.
Oui, tout à fait.
Et pourtant, le grand catalyseur de tout cet écosystème, on le voit, c'est un partenariat massif avec Google. Ces startups vont utiliser l'infrastructure cloud de Google, les outils de Google, le mentorat de Google. C'est pas une contradiction totale, ça. On clame vouloir l'indépendance, mais on utilise les grues du géant américain pour construire notre propre château.
C'est une excellente remarque. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'innovation technologique mondiale fonctionne rarement par rupture totale et isolée. L'indépendance, ce n'est pas un interrupteur qu'on bascule du jour au lendemain.
D'accord, donc c'est plus progressif.
Oui, nous sommes dans une phase d'hybridation. Entraîner un modèle d'intelligence artificielle à partir de zéro, ce qu'on appelle un modèle de fondation, ça coûte des dizaines de millions de dollars en puissance de calcul pure.
Ouais, c'est inabordable pour une jeune entreprise.
Exactement. Ces startups n'ont pas ce capital. La stratégie consiste donc à utiliser la puissance brute du cloud mondial, qui est déjà en place, pour affiner des modèles préexistants avec des données hyper locales.
Ah, je vois. C'est un peu comme louer une immense cuisine industrielle ultra équipée. Juste le temps de perfectionner une recette familiale super complexe. On n'est pas propriétaire de la cuisine, mais la recette finale, la propriété intellectuelle, elle, nous appartient.
C'est une métaphore parfaite. Et une fois que cette recette, cet algorithme est finalisé, optimisé, et qu'elle a prouvé sa rentabilité, eh bien elle demande beaucoup moins de puissance pour fonctionner au quotidien.
Ah ouais, et c'est là qu'on rapatrie.
Précisément. À ce moment-là, la start-up peut rapatrier son modèle et le faire tourner de manière autonome sur les serveurs locaux des usines d'Alcron ou de Cassava dont nous parlions tout à l'heure. Ce partenariat, ce n'est pas une soumission. C'est un transfert de compétences par procuration.
C'est un levier pactique, en fait, pour accumuler du capital intellectuel avant de couper le cordon.
Exactement.
Et cette volonté d'avancer vite, de s'approprier les outils à une vitesse franchement fulgurante, ça provoque parfois des étincelles assez spectaculaires quand ça percute les structures traditionnelles. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
Ah oui, l'incident politique.
C'est fou. Le rapport de Radio TAM Africa dévoile une crise de gouvernance presque surréaliste en Afrique du Sud. Le gouvernement planchait sur son projet de politique nationale sur l'intelligence artificielle, le grand cadre législatif censé réguler la tech, quoi.
Un document crucial pour le pays.
Et du jour au lendemain, bam, le document officiel est retiré dans l'urgence absolue. Pourquoi ? Parce qu'il était truffé de sources académiques fictives et de textes générés par l'IA elle-même. Le ministre des Communications a dû intervenir en urgence pour dénoncer une violation des normes de gouvernance.
C'est un cas d'école et cela soulève une question importante sur la nature même des outils que nous utilisons. Il y a ici une collision frontale entre la lenteur nécessaire et normale du processus démocratique et l'instantanéité de la génération algorithmique. Ce qui s'est passé là-bas, c'est ce qu'on appelle techniquement une hallucination.
Oui, et c'est ce mécanisme d'hallucination qu'il faut vraiment décortiquer pour bien comprendre l'ironie totale de la situation. On a souvent l'impression, à tort, qu'un modèle de langage comme l'IA est une sorte de super encyclopédie infaillible ou une immense base de données qui va chercher des faits exacts. Mais c'est pas du tout ça, non.
Absolument pas. C'est l'erreur la plus commune. Un grand modèle de langage ne sert rien au sens humain du terme. C'est un moteur de probabilité.
D'accord.
Son seul et unique but, c'est de prédire quel mot a le plus de chances mathématiques d'apparaître après le mot précédent, en fonction des milliards de textes sur lesquels il a été entraîné.
C'est comme un perroquet ultra sophistiqué, en fait.
Voilà, donc si un rédacteur gouvernemental lui demande de produire une justification légale pour une politique numérique complexe, l'IA va générer un texte qui imite parfaitement le ton académique. Elle va inventer des noms de chercheurs qui sonnent vrais, des titres de revues plausibles, des dates.
Juste parce que statistiquement, ça a l'air correct.
C'est ça. Parce que ces suites de mots sont probables dans ce contexte. L'IA ne ment pas intentionnellement. Elle génère de la vraisemblance, pas de la vérité.
Mais c'est fascinant d'absurdité, franchement. Un gouvernement qui tente de rédiger des lois pour contrôler les dérives de l'intelligence artificielle en utilisant secrètement un outil d'intelligence artificielle qui dérive complètement.
C'est le serpent qui se mord la queue.
Complètement. Mais au-delà de l'anecdote embarrassante pour le ministère, il y a un danger systémique vertigineux là-dessous. Si cette loi avait été adoptée, on se serait retrouvé avec un cadre juridique basé sur du vent. Et pire encore, imaginons ce qu'on appelle une boucle de données récursive, c'est-à-dire une IA qui serait un jour entraînée sur des lois et des textes officiels qui ont eux-mêmes été inventés par une autre IA des années plus tôt. C'est l'effondrement total de la réalité institutionnelle.
C'est le cœur du problème actuel. La souveraineté numérique, ça ne se résume pas à posséder des câbles et des processeurs, on le voit bien. Elle exige une littératie numérique critique au plus haut niveau de l'État. Si les législateurs ne comprennent pas la mécanique interne d'un algorithme prédictif, ils ne peuvent ni l'utiliser correctement, ni le réguler.
Ils sont complètement dépassés.
Oui. L'incident sud-africain, c'est un avertissement très sévère pour tous les gouvernements mondiaux. La technologie avance à une cadence exponentielle, tandis que les cadres réglementaires, eux, avancent à un rythme linéaire.
Mais le contraste que dresse Radio Tam Tam Africa dans la suite de son bulletin, il est saisissant. Parce que pendant que l'appareil d'État trébuche sur des hallucinations administratives, eh ben le secteur privé, lui, il déploie des solutions qui transforment concrètement le réel.
Sur le terrain, ça va très vite, oui.
L'IA est déjà descendue dans l'arène de l'économie tangible. Prenons le tourisme, par exemple. Le bulletin évoque la célèbre Gordon Route en Afrique du Sud. L'expérience de voyage n'a plus rien à voir avec le fait de suivre une vieille carte en papier ou de cocher les 10 points d'intérêt d'un guide touristique classique. Ce sont des systèmes IA qui orchestrent des itinéraires hyper personnalisés.
Une véritable révolution pour le secteur.
Mais objectivement, comment cette orchestration diffère-t-elle des algorithmes de recommandation assez classiques qu'on connaît déjà sur les grosses plateformes de réservation ?
La différence fondamentale, elle se trouve dans la dynamicité et la capacité d'ajustement en temps réel. Un guide classique, ou même un vieil algorithme de recommandation, c'est statique. Il envoie des milliers de personnes vers les mêmes lieux en même temps, ce qui crée de la congestion et dénature complètement l'expérience.
Ah oui, le fameux surtourisme.
Exactement. L'IA appliquée aujourd'hui sur la Garden Route fonctionne de manière radicalement différente. Elle agit comme un aiguilleur du ciel. Elle va croiser vos préférences ultra spécifiques avec des données en temps réel, la météo exacte à 10 km près, la fluidité du trafic en direct et surtout la fréquentation instantanée d'un site touristique.
Impressionnant. Et si un endroit est trop plein ?
Eh bien, si le système détecte qu'une plage prisée commence à être saturée, il va instantanément recalculer les itinéraires de ses utilisateurs en amont. Il va les diriger vers un domaine viticole un peu caché ou une crique adjacente, tout en leur expliquant via l'interface pourquoi c'est le meilleur choix à cet instant précis.
Donc ce n'est pas juste un assistant de voyage mignon, c'est un véritable outil de gestion active des flux macroéconomiques. L'algorithme répartit la richesse touristique de manière invisible, sans que le voyageur ne s'en rende compte, tout en lui offrant l'illusion d'une sérendipité totale. C'est brillant.
C'est de l'ingénierie sociale positive, d'une certaine façon.
Et ces applications touchent des domaines encore plus complexes. Radio Tam Tam Africa cite aussi un lancement en Libye par un grand opérateur de télécommunications. Ils ont sorti un chatbot multilingue.
Oui, un développement technique très audacieux.
Et le détail qui change tout, c'est qu'il ne parle pas juste l'arabe classique ou l'anglais de base. Il gère les dialectes locaux. C'est, franchement, un tour de force technique massif. Pourquoi les dialectes posent-ils historiquement un tel problème à l'intelligence artificielle ?
Eh bien, parce que toute l'architecture de l'IA repose sur le volume et la standardisation extrême des données. Les grands modèles ont ingurgité la quasi-totalité de l'Internet anglophone. Et l'anglais d'Internet suit des règles grammaticales relativement figées. Il est abondamment documenté.
D'accord, c'est une donnée très propre, très carrée.
C'est ça. Un dialecte local, en revanche, c'est souvent une tradition principalement orale. La grammaire n'est pas standardisée du tout, l'orthographe varie d'une région à l'autre, il y a énormément d'argot, des expressions idiomatiques ultra complexes, des mélanges de langues.
Ça doit être un cauchemar pour un algorithme.
Totalement. Pour qu'une machine puisse comprendre et répondre dans un dialecte libyen de manière fluide, il a fallu que des ingénieurs locaux créent de nouvelles bases de données d'apprentissage de toutes pièces.
Ah oui, le fameux travail sur la donnée brute.
Oui, ils ont dû transcrire des milliers d'heures de conversations réelles pour forcer les réseaux de neurones à repérer des schémas syntaxiques qui, honnêtement, n'existent dans aucun manuel de linguistique classique.
C'est un travail de fourmi, mais les implications, elles sont monumentales. Ça signifie que, pour une fois, la technologie s'adapte enfin à la population, au lieu de forcer la population à parler la langue de la machine, ou pire, à devoir utiliser une langue coloniale ou dominante juste pour accéder aux services de base. C'est de l'inclusion numérique au sens le plus viscéral du terme.
C'est une redémocratisation de l'accès technologique, oui.
Et le bulletin ne s'arrête pas là. Il mentionne également une start-up au Kenya qui ne crée plus de simples chatbots, mais carrément des agents IA autonomes pour les entreprises. Et là encore, je pense qu'il faut clarifier la mécanique pour ne pas s'y perdre. Un chatbot, on lui pose une question, il génère une réponse textuelle et fin de l'interaction. Mais un agent autonome, ça fonctionne comment sous le capot ?
La distinction est capitale, vous avez raison de la souligner. Un agent autonome est doté de ce qu'on appelle une boucle de rétroaction et d'exécution. C'est souvent lié à des API, c'est-à-dire des ponts informatiques qui lui permettent de communiquer directement avec d'autres logiciels sans intervention humaine.
Ça a l'air puissant. Un exemple concret.
Imaginons une entreprise de logistique kényane qui est confrontée à un gros retard de livraison à cause d'une tempête soudaine. Un simple chatbot pourrait, au mieux, rédiger un joli mail d'excuses que l'employé humain devrait ensuite vérifier et envoyer.
Ce qui fait perdre du temps.
Exactement. L'agent autonome, lui, il détecte le problème de lui-même via les données GPS des camions. Ensuite, il analyse les contrats des clients, il identifie les fournisseurs de transport de remplacement dans la région, il négocie les tarifs via un échange automatisé de requêtes serveurs, il valide le nouveau trajet, il reprogramme la livraison dans le logiciel interne de l'entreprise et enfin, il informe le client par SMS.
Waouh ! Donc il ne se contente pas de parler, il agit.
C'est ça la révolution. Il ne génère pas du texte à lire, il génère des actions concrètes dans le monde réel. L'agent raisonne par étapes. Il observe, il planifie, il agit, puis il évalue le résultat de son action. C'est une automatisation cognitive d'un niveau radicalement supérieur.
C'est vertigineux quand on y pense. On comprend beaucoup mieux pourquoi des géants technologiques, comme Oracle par exemple, s'empressent aujourd'hui de proposer des formations gratuites en IA en Afrique du Sud. L'infrastructure économique entière est en train d'être recablée par ces agents autonomes. Ce qui nous amène, finalement, à la vue d'ensemble.
Le moment de faire le point.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si on agrège toutes ces pièces du puzzle fournies par Radio Tam Tam Africa, donc, les usines physiques financées par Altron, les ingénieurs kényans formés sur le cloud de Google, ces chatbots dialecto-libyens ultra-inclusifs et même les lois sud-africaines hallucinées, le portrait qui se dessine est celui d'une refonte totale du pouvoir.
Une refonte tectonique, oui.
Ce n'est pas juste l'adoption d'un nouveau gadget à la mode. C'est une bataille géopolitique acharnée pour le contrôle de l'architecture même de la connaissance. La région ne veut plus que ses données soient la matière première de modèles qui lui sont revendus au prix fort. Elle veut maîtriser la boucle complète de l'atome de silicium jusqu'à l'action autonome de l'algorithme kényan.
Et cette volonté acharnée de maîtrise totale ouvre la porte à une perspective qui, franchement, devrait interpeller tous les observateurs mondiaux de la technologie.
Laquelle ?
Eh bien, imaginons un instant que cette trajectoire arrive à pleine maturité dans quelques années. Si ces écosystèmes locaux réussissent à bâtir leur propre modèle de fondation en se nourrissant exclusivement de corpus de données africains, d'histoires locales, de nuances dialectales et de dynamiques sociétales qui leur sont propres...
Oui, qu'est-ce qui se passe ?
Nous n'assisterons pas simplement à la naissance d'une IA qui parlerait différemment. Nous pourrions voir émerger une intelligence artificielle dotée d'une structure de pensée fondamentalement différente.
Oh ! Vous voulez dire une philosophie différente qui serait codée directement dans les points et les paramètres du réseau neuronal lui-même ?
Précisément. Les algorithmes actuels que nous utilisons, qu'ils soient américains ou asiatiques, reflètent inévitablement les biais profonds de la Silicon Valley ou de Pékin.
Forcément, puisqu'ils sont entraînés sur leurs données.
Voilà. Ils reflètent une certaine vision de l'efficacité, de l'individu isolé, de notre rapport au temps et à la nature. Une IA véritablement endogène, développée par et pour le continent africain, pourrait aborder la résolution de problèmes mathématiques, logistiques ou sociaux avec un cadre cognitif totalement inédit.
C'est fascinant.
Une manière de penser qui privilégierait peut-être, disons, le consensus communautaire plutôt que l'optimisation individuelle à tout prix. Ce n'est plus qu'une question purement technologique, là. C'est l'émergence potentielle d'une nouvelle épistémologie mécanique. Et cette diversité de pensée algorithmique sera très probablement la ressource la plus précieuse des prochaines décennies.
Une intelligence synthétique avec un système de valeurs différent, voilà une pensée provocatrice qui remet vraiment en perspective la manière dont nous concevons le futur. Si l'on reprend l'image de notre métropole du tout début, non seulement la ville se met à fabriquer ses propres centrales électriques, mais l'énergie intellectuelle qu'elle s'apprête à générer pourrait bien avoir une couleur, une fréquence, une puissance totalement inédite.
Et une énergie qui ne se limitera pas à ses frontières.
Exactement. Une énergie qui finira sûrement par éclairer bien au-delà de ses propres frontières et bousculer durablement les habitudes technologiques du reste du monde. En tout cas, voilà de quoi alimenter de longues réflexions de votre côté sur notre rapport à la souveraineté et à la donnée. Un immense merci de m'avoir accompagné pour décortiquer cette dynamique si complexe et à très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des forces qui façonnent notre époque.